au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il y a donc, mes bien chers frères, un matraquage médiatique de la part de la Fraternité Saint-Pilis par rapport à la canonisation de Jean-Paul II, canonisation que nous mettrons bien évidemment entre guillemets, puisque ayant un faux pape, on ne peut avoir qu'une fausse canonisation. Ça, ce sont les conséquences de la doctrine catholique. Donc le poison qui est distillé par la Fraternité Saint-Pilis nécessite un contre-poison. Si vous avez la chance, la grâce de ne pas recevoir ces bulletins, c'est très bien, mais malheureusement, beaucoup d'entre vous en reçoivent, fréquentent même, malheureusement, la Fraternité Saint-Pilis. Et donc, il est nécessaire pour moi, prêtre, en conscience, tout simplement, de donner un contrepoison à un esprit qui n'est rien d'autre qu'un esprit hérétique. L'état d'esprit de ces différents articles est plutôt une stratégie qu'une véritable analyse de la situation de l'Église aujourd'hui, ce qui est déjà évidemment un point problématique. Nous devons chercher non pas à justifier une position, mais nous devons chercher la vérité. Nous devons chercher à expliquer autant que faire se peut, à la lumière de la foi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi apparemment un pape va canoniser un personnage qui n'a rien de saint. Et c'est cela la question réellement que nous devons nous poser. Tandis que ces différents bulletins, la fraternité, prêtre, s'affairent à essayer de tenir deux conclusions qui sont opposées. Jean-Paul II n'est pas saint et donc ne peut pas être canonisé, et ça nous sommes d'accord. Et la deuxième conclusion opposée, Bergoglio est vraiment pape. De là, ils prétendent donc démontrer, par conséquent, qu'un vrai pape peut faire de fausses canonisations. Et donc, c'est ça leur but. Ce n'est pas de comprendre ce qu'il se passe, mais c'est de démontrer qu'un vrai pape peut faire de fausses canonisations. Ce qui n'est pas, évidemment, une bonne attitude d'un point de vue intellectuel. En résumé, pour résumer et reprendre leurs différents arguments, mettez aussi arguments entre guillemets, le premier argument, c'est que chez, appelons-les les modernistes, il y a un changement de la notion de sainteté et de la notion de canonisation. Et donc, puisqu'il y a un changement de notion, il n'y a pas une vraie canonisation. Alors, admettons que c'est le cas. Admettons qu'il y a vraiment un changement de la notion de canonisation. Admettons qu'il y ait vraiment un changement chez Bergoglio, Benoît XVI et autres, de la notion de canonisation. La question qui se pose est comment une véritable autorité de l'Église peut-elle donner à l'Église une fausse notion de la sainteté ? N'est-ce pas problématique, non ? Car aux yeux de la foi, le pape ne peut pas donner ce poison ou même diminuer tout simplement la foi de l'Église, les vérités fondamentales. Et la sainteté, donc le moyen d'aller à Dieu, est une vérité fondamentale de notre foi. Allons plus loin. Si on applique ce principe prêché par la Fraternité Saint-Pilis, on peut l'appliquer à d'autres notions. Les modernistes à Vatican II ont changé la notion de pape, la notion de papauté. Ils ont introduit la collégialité épiscopale, de sorte que le pape est pratiquement pour eux un primus inter pares, mais n'a pas une primauté réelle de juridiction sur toute l'Église. Donc s'ils ont une fausse notion de la papauté, ceux qui élisent le pape, ben, ils n'élisent pas un vrai pape. Soyons logiques et appliquons la logique de la fraternité Saint-Pilice. Il y a une fausse notion de la sainteté, de la canonisation, donc il n'y a pas de canonisation. Il y a une fausse notion du pape, il y a une fausse notion de la papauté, donc il n'y a pas véritablement un pape. C'est tout simplement logique, pour s'en tenir à leur logique. Je ne dis pas qu'elle est vraie. D'ailleurs, en réalité, est-ce qu'il y a vraiment un changement de la notion de sainteté ? Eh bien, ce n'est pas si évident. Le problème est que nous avons affaire, justement, à des modernistes et que leurs textes seront très souvent ambigus. C'est-à-dire que nous pourrons retrouver une vraie notion de sainteté, même si eux y entendent éventuellement une fausse notion. Et si nous lisons le texte officiel, je ne vais pas vous le lire en entier, de Jean-Paul II, donc la constitution qui va Divinus Perfectionis Magister, donc par laquelle il va réformer le processus des canonisations, il dit ceci. Ayant donné à tous ses disciples, donc le Christ, le précepte d'imiter la perfection du Père, il leur envoie à tous son Esprit Saint pour que celui-ci les pousse intérieurement à aimer Dieu de tout leur cœur et à s'aimer les uns les autres comme lui-même les a aimés. Les disciples du Christ, comme nous l'enseigne le Concile Vatican II, appelés et justifiés par Jésus-Christ, non selon leurs œuvres, mais selon le dessein et la grâce de Dieu, sont devenus dans le baptême de la foi vraiment fils de Dieu et participants de la nature divine, et par conséquent réellement saints. En soi, c'est catholique de dire ça, les chrétiens sont saints parce qu'au baptême, ils reçoivent la grâce de Dieu qui est une participation, comme c'est rappelé ici, à la nature divine. Il continue, « Parmi ceux-ci, en tout temps, Dieu en a choisi beaucoup qui, ayant suivi de plus près l'exemple du Christ, ont témoigné magnifiquement du royaume des cieux par l'effusion de leur sang ou par la pratique héroïque des vertus. » Donc il fait bien référence, contrairement à ce qu'on peut lire dans les documents de la fraternité, il fait bien référence à une pratique héroïque, effectivement, des vertus. Or, l'Église, donc, a canonisé non seulement les martyrs, mais, je continue, à ce martyr, on ajouta bientôt ce qui avait imité de plus près la virginité, la pauvreté du Christ, et enfin tous ceux que la pratique remarquable des vertus et les charismes divins recommandaient à la pieuse dévotion et à l'imitation des fidèles. Donc, finalement, si on s'en tient au texte officiel, est-ce que la notion de sainteté est vraiment changée en reconnaissant Jean-Paul II comme vraiment pape? Il devrait interpréter dans le sens vraiment catholique, tout simplement. Et donc, il n'y a pas de changement de la notion de sainteté. Attention, je ne dis pas que je suis d'accord avec ce genre de proposition, n'est-ce pas? D'ailleurs, si on regarde de plus près, il y a plusieurs éléments qui nous montre qu'effectivement, Jean-Paul II, eh bien, va essayer de concilier la doctrine catholique avec le protestantisme, donc en introduisant certaines petites paroles. Je ne vais pas m'étendre, hein, je vais m'en tenir au texte que j'ai écrit pour ne pas être trop long, mais donc ce que nous voyons, c'est l'ambiguïté du modernisme. Deuxième chose, la fraternité dénonce un changement du processus de canonisation qui rendrait ce processus insuffisant. Donc, est-ce que il y a vraiment un processus insuffisant? Eh bien, nous allons le voir. Ce que nous pouvons dire, c'est que le pape, un vrai pape, est juge de ce processus. S'il veut changer certains points du processus de canonisation, sur l'enquête, etc., sur les miracles, il est tout à fait en droit de le faire, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, le pape est juge du processus, est juge ultime de la cause de canonisation. Cela demeure tout à fait dans les nouvelles dispositions, les dispositions de Jean-Paul II. Donc, depuis quand, mes bien chers frères, dans l'Église, appartient-il aux fidèles, aux simples fidèles, aux membres de l'Église enseignés, comme je vous le rappelais, et les membres de l'Église enseignante sont le pape et les évêques qui ont en charge d'un diocèse, qui ont juridiction dans l'Église. Donc, Monseigneur Fellay et autres font partie, comme vous et moi, de l'Église enseignée, et non pas de l'Église enseignante. Donc, depuis quand appartient-il aux fidèles de l'Église enseignée de décider ce qui est suffisant ou non dans les actes de la suprême autorité de l'Église? Ce sont des paroles qui sont assez scandaleuses, finalement, aux yeux de la foi catholique. Revenons sur l'insuffisance de ce processus. Donc, ils vont dire que il n'y a pas de véritable canonisation puisque le processus est insuffisant. Or, pour qu'il y ait un acte infaillible, il faut qu'il y ait de la prudence. Et donc, l'examen insuffisant est une imprudence et donc il n'y a pas véritablement acte infaillible. Est-ce que l'insuffisance de l'examen est démontrée? Non, pas du tout. Il y aurait peut-être imprudence s'il n'y avait pas du tout d'examen. Si, au lendemain de la mort de Jean-Paul II, puisque certaines personnes très mal éclairées clamaient « Santo subito », faisons le saint tout de suite, si Benoît XVI, dès son élection, avait déclaré le jour même « Je déclare saint mon prédécesseur » sans aucune autre forme de procès, évidemment, il y aurait peut-être un problème d'examen, des preuves de la sainteté. Mais là, ce n'est pas le cas. Même si l'examen a été diminué par rapport à ce qu'on faisait autrefois, il y a toujours un examen. Donc dire qu'il y a imprudence n'est certainement pas juste. Troisième point, il dénonce le relativisme. Les modernistes pensent qu'il n'y a pas donc finalement de vérité qui s'impose de façon absolue. C'est le relativisme par rapport à la vérité. Et par conséquent, si aucune vérité ne s'impose de manière absolue, il n'y a pas de définition infaillible possible. Si tel est le cas, en admettant que ce soit vrai, il y a au moins une vérité qui est enseignée comme définitive. C'est que la vérité change tout le temps. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est une vérité ou c'est pas une vérité? Donc il y a au moins une vérité qui ne change pas. Alors comment une véritable autorité de l'Église peut-elle enseigner cette pseudo-vérité? Il n'y a pas de vérité. Évidemment, on a du mal à justifier cela. Dans les faits, mes bien chers frères, notez-le, c'est faux. Est-ce que Vatican II n'impose pas de vérité, soi-disant, c'est fausse vérité? Vatican II est depuis plus de 50 ans, ces fausses autorités de l'Église imposent certaines choses à l'Église. Ce n'est pas pour rien que nous sommes marginalisés, que nous sommes condamnés. Ce n'est pas pour rien que lors des discussions entre Rome et la Fraternité Saint-Pie-X, on veut et on leur demande de signer des textes clairs par lesquels ils vont accepter ces nouvelles doctrines. Ça veut dire que pour eux, ces nouvelles doctrines sont à tenir par tout le monde et par toute l'Église. Donc il y a bien des vérités imposées, comme le libéralisme, la collégialité, etc. Donc c'est faux de dire que ces gens-là n'imposent aucune vérité. Quatrième point, il y a soi-disant une volonté de ne pas obliger. Donc même s'il y a toutes les notes de l'infaillibilité pontificale, pour la fraternité, dans certains cas, même s'il y a toutes les notes, eh bien, étant donné que le pape ne veut pas obliger l'Église, il n'y a pas l'infaillibilité. Nous allons évidemment être un peu plus longs sur ce point. Une fois de plus, en admettant que ce soit le cas, vous voyez, en faisant beaucoup de concessions, en suivant même la logique de la fraternité, ça a été le cas quand Jean-Paul II a rappelé certaines vérités et donc par rapport au sacerdoce, soi-disant donc des femmes, hein, en condamnant cela. Et par la suite, il avait été dit par Ratzinger que le pape n'avait pas eu l'intention de définir, mais il y avait tous les termes, toutes les notes d'une définition. Donc en admettant que ce soit le cas, quand c'est précisé explicitement, même par la suite, ce qui est déjà contestable, nous le verrons au point de vue de l'infaillibilité, il faudrait en conclure que quand c'est pas précisé, ça veut dire que la volonté du pape d'obliger est bien présente. Et donc si rien n'est précisé par rapport aux canonisations, c'est qu'il y a bien usage de l'infaillibilité. Il faudrait être beaucoup plus logique de la part de la fraternité. On ne devrait considérer comme non infaillible que quand c'est précisé que c'était non infaillible. Si ce n'est pas précisé, puisqu'il y a toutes les notes, on doit considérer comme étant infaillible. Ce qui nous renvoie au problème majeur. Ce problème majeur, c'est le problème du subjectivisme. Il est présent dans la fraternité Saint-Pédis. Il est présent dans d'autres fausses positions par rapport à la crise de l'Église. C'est malheureusement un des points de la mentalité moderne qui pourrit justement la foi et le véritable esprit chrétien. Ils vont dire en effet que le pape est libre ou non d'user de son infaillibilité comme d'un instrument qui est mis à sa disposition et selon ses conditions psychologiques. Donc pour eux, même s'il y a toutes les notes de l'infaillibilité, il n'est pas infaillible parce que en se levant le matin, il s'est dit « aujourd'hui, je ne vais pas user de mon infaillibilité ». Donc même si il a, dans ses textes qu'il signe, qu'il proclame, il y a objectivement toutes les notes de l'infaillibilité, puisque dans son esprit, et purement dans son esprit, il ne veut pas être infaillible, et bien donc il n'y a pas d'infaillibilité. Cela est du subjectivisme, et nous allons expliquer et montrer quelle est la position de l'Église catholique à ce sujet. Remarquez que c'est pareil par rapport à ces gens qui, à l'époque, ou qui encore aujourd'hui, voudraient sauver le soldat Paul VI, comme on pourrait l'appeler. Le soldat, d'ailleurs, qui a toujours été un soldat du démon plutôt qu'un soldat de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ils disent, mais ils ne voulaient pas approuver la nouvelle messe. Ils disaient la nouvelle messe, l'ancienne messe en privé, etc., ce qui est à démontrer, d'ailleurs. Mais c'est pas notre problème. Le problème, aux yeux du catholique, c'est ce qu'il a signé, ce qu'il a approuvé objectivement. Ce n'est pas des soi-disant intentions subjectives. Pareil par rapport à la signature et à l'approbation de Vatican II. Objectivement, il a signé. Un point, c'est tout. Objectivement, il a proclamé Vatican II. Et même dans ses documents par la suite, dans ses sermons, etc., on voit qu'il fait toujours référence à Vatican II. Ça, c'est objectif. Et c'est très important, parce que c'est la proclamation de Vatican II, de même que l'approbation de la nouvelle messe, sont des choses qui devraient être infaillibles, qui ont les notes de l'infaillibilité, qui ne le sont pas parce que Paul VI n'est pas pape, tout simplement. Donc, je vais vous rappeler à ce sujet quelle est la doctrine catholique. On ne peut pas, en fait, renvoyer l'infaillibilité à une volonté subjective du pape. Il faut qu'elle soit au niveau objectif. Cela est expliqué par M. l'abbé Moureau dans un excellent article de 1998 où il va citer Mgr Gasser. Différentes objections, dit l'abbé Moureau, étaient apparues lors du concile du Vatican, Vatican I, contre la définition de l'infaillibilité du pape. Parmi ces objections, certaines portaient sur la doctrine, d'autres sur l'opportunité de la définition, d'autres sur l'objet qu'il serait difficile de délimiter, d'autres sur le terme même qui pouvait être mal interprété. La députation de la foi, par l'intermédiaire de Mgr Gasser, évêque de Bressanone, répondit aux objections et donna l'explication du texte qui fut ensuite défini. Donc s'il y a une explication du texte, le pontife romain est infaillible, etc., du Concile Vatican, elle est à trouver ici, dans les paroles de Mgr Gasser. Il dit ceci. Le sujet de l'infaillibilité est le pontife romain en tant que pontife, ou bien en tant que personne publique en relation à l'Église universelle. Ces simples paroles suffiraient à démontrer l'inanité de renvoyer à des intentions subjectives. C'est l'acte lui-même qui fait, on est sûr, que ces paroles, cette doctrine est vraie. C'est l'acte lui-même dans ses composants objectifs. Il y a les notes de l'infaillibilité, c'est infaillible, point. Mgr Gasser précise, « Or, quelques pères du Concile ne se contentent pas de ces conditions. Ils veulent encore introduire dans cette constitution dogmatique certaines conditions ultérieures qui, de différentes manières, se trouvent dans plusieurs traités de théologie et qui se rapportent à la bonne volonté, par exemple du pape. C'est on ne peut plus clair. Donc des conditions qui se rapporteraient à la bonne volonté ou aux ailes du pape pour la recherche de la vérité. Tiens, ça me fait penser à ce fameux examen super attentif demandé par la fraternité Saint-Pinis. Gasser, Mgr Gasser, répondit que peu importaient les motivations et les intentions du pontife qui regardait sa conscience, mais que seul comptait le fait qu'il parlait à l'Église. Donc, il faut l'appliquer, bien sûr, pour Paul VI qui proclame Vatican II et la Nouvelle Messe. Il parle à l'Église, point. Peu importe ce qui regarde sa conscience, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le commentaire, si on ose dire, officiel du Concile Vatican I. Mgr Gasser poursuit, et il va très loin. Notre Seigneur Jésus-Christ a voulu faire dépendre le charisme de la vérité de ses rapports publics, donc du pontife, avec toute l'Église. Autrement, donc s'il en était autrement, le don de l'infaillibilité ne serait pas un moyen efficace pour le maintien et le rétablissement de l'unité chrétienne. C'est pourquoi il n'est pas à craindre que l'Église puisse jamais être induite en erreur par la mauvaise volonté ou par la négligence d'un pape. Je répète pour que vous entendiez bien. C'est pourquoi il n'est pas à craindre que l'Église puisse jamais être induite en erreur par la mauvaise volonté ou par la négligence d'un pape. Donc l'Église ne peut pas être induite en erreur par la mauvaise volonté ou par la négligence de Paul VI, Jean-Paul II, etc. Cela n'est pas possible. La protection de Jésus-Christ et l'assistance promise à Pierre sont si puissantes qu'elles empêcheraient le jugement du pape s'il était erroné ou nuisible à l'Église et que si, de fait, le pape rend un décret, ce décret sera infailliblement vrai. Et donc, je dirais, j'en ai assez de ce subjectivisme. Il faut arrêter de renvoyer toujours à des intentions subjectives, qui sont nébuleuses, qui sont la plupart du temps inventées, alors que les actes eux-mêmes ne sont pas inventés. Les textes sont suffisamment clairs et les signatures sont suffisamment claires également, et les proclamations solennelles sont suffisamment claires. D'ailleurs, si on suit cette position de la Fraternité Saint-Pédis, de renvoyer à des conditions psychologiques, subjectives, dans ce cas-là, on peut remettre en cause tous les actes de tous les papes, de tous les temps. Les modernistes vont pouvoir dire, finalement, Saint-Pédis n'avait pas l'intention subjective de nous condamner, même s'il le dit noir sur blanc. Son intention n'était pas là. Ah, bien, Pie IX, il n'avait pas l'intention de condamner le libéralisme, le naturalisme, etc., de cette manière. Non, non, ça, ce sont les textes, mais lui, il n'avait pas cette intention subjective. Jusqu'où on va comme ça? La papauté ne sert à rien, l'infaillibilité ne sert à rien dans ces conditions. Donc, mes bien chers frères, voyez un peu la gravité de cette position. Les nouvelles de mi-point canonisation, mes bien chers frères, je le fais remarquer, fussent-elles contestables? Le chrétien qui pense que Bergoglio est vraiment pape doit se soumettre à celui qu'il considère comme pape, comme véritable successeur de Pierre. Je le dis et je le répète, vous considérez que quelqu'un est pape, vous vous soumettez, tout simplement. C'est lui le chef, ce n'est pas vous. C'est ce que disait le pape Saint-Pédis. Donc, le pape Saint-Pédis disait ceci. Le pape est le gardien du dogme et de la morale. Il est le dépositaire des principes qui rendent vertueuses les femmes, les grandes, les nations, saintes les âmes. Il est le conseil des princes et des peuples, il est le chef, sous lequel nul ne se sent tyrannisé parce qu'il représente Dieu lui-même. Il est le prêtre par excellence qui réunit en lui tout ce qu'il peut y avoir d'aimant, de tendre et de divin. Il semble incroyable, dit Saint-Pédis, et c'est pourtant une douloureuse réalité qu'il existe des prêtres auxquels il faille faire cette recommandation. Mais nous sommes pourtant aujourd'hui en cette dure, en cette malheureuse condition de devoir dire à des prêtres « Aimez le pape !» Et comment aimer le pape? Non par des paroles seulement, mais par des actes, et avec sincérité. « Non verbo neque lingua, sed opere et veritate » selon la première épître de Saint Jean. Quand on aime quelqu'un, on cherche à se conformer en tout à ses pensées, à exécuter ses volontés et à interpréter ses désirs. Et si notre Seigneur Jésus-Christ disait de lui-même, « Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole », ainsi, pour montrer notre amour au pape, il est nécessaire d'obéir. Et c'est pourquoi, quand on aime le pape, on ne s'arrête pas à discuter sur ce qu'il commande ou exige, à chercher jusqu'où va le devoir rigoureux de l'obéissance et à marquer la limite de cette obligation. Quand on aime le pape, on n'objecte pas qu'il n'a pas parlé assez clairement, comme s'il était obligé de redire directement à l'oreille de chacun sa volonté et de l'exprimer non seulement de vive voix, mais chaque fois par des lettres et autres documents publics. On ne met pas en doute ses ordres sous le facile prétexte chez qui ne veut pas obéir, qui n'émane pas directement de lui, mais de son entourage. Là aussi, on retrouve le mythe du fameux pape prisonnier de son entourage. Cela, mes bien chers frères, est faux. Les documents que Paul VI, par exemple, a proclamés, il les a proclamés, il les a signés. C'est ça, la réalité. Ceux que Jean-Paul II a proclamés, il les a proclamés, c'est pareil, c'est la réalité. Il n'est pas victime de quoi que ce soit, il est totalement libre de le proclamer. On n'oppose pas à l'autorité du pape celle d'autres personnes, si doctes fussent-elles, qui diffèrent d'avis avec le pape. D'ailleurs, quelle que soit leur science, la sainteté leur fait défaut, car il ne saurait y avoir de sainteté là où il y a dissentiment avec le pape. On ne peut pas, mes bien chers frères, faire plus clair que ces paroles du pape Saint-Pie X. Si vous reconnaissez Bergoglio, Paul VI et compagnie comme pape, vous leur obéissez un point, c'est tout. En bref, mes bien chers frères, c'est l'erreur grave du subjectivisme à laquelle nous avons affaire. Elle consiste ici à subordonner l'exercice de l'infaillibilité à une intention subjective de l'homme pape et non à des critères objectifs, ces critères énumérés par Vatican I. Dans ce cas, on ne peut jamais être sûr du caractère infaillible d'une définition, et donc on ne peut jamais être sûr de l'inhérence, l'absence d'erreur, des vérités enseignées par le pape à l'Église. Ainsi, par ces gens, l'infaillibilité est rendue vaine. C'est exactement la position du gallicanisme. À force donc de vouloir refuser à tout prix la conclusion qui s'impose au regard de la foi, au regard de la doctrine catholique, cette conclusion qui est Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, Bergoglio, bien qu'occupant le siège de Pierre, ne sont pas vraiment papes, ce que confirme chez eux l'absence d'infaillibilité, car s'ils étaient papes, ils seraient infaillibles. Ils en viennent donc, ces gens, à avoir des positions contraires à la foi catholique. Pour sauver ce faux pape, ils détruisent la foi dans la papauté. Cela peut être paradoxal, mais c'est exactement cela. Pour sauver Paul VI comme pape, eh bien, on va détruire les éléments fondamentaux de la papauté, dont l'infaillibilité dans son caractère objectif, tout simplement. Ceci était dénoncé admirablement par M. l'abbé Carandino en 2002. À l'époque, il avait quitté, justement, il a quitté la Fraternité Saint-Pie X pour l'Institut Mater Boni Concilii, et il explique: la fraternité continue à enseigner à propos de la papauté une nouvelle doctrine qui s'éloigne de la doctrine catholique et qui inévitablement prépare une mentalité de petite église, c'est-à-dire que le pape, pour eux, donc le pape, le vicaire du Christ sur la terre, celui qui a reçu les clés du Christ pour lier et délier, il peut se tromper en matière de foi, il peut enseigner des erreurs doctrinales, que le pape détruit l'Église, qu'un pape peut promulguer une messe, et des sacrements mauvais, et même des sacrements invalides. C'est le cas de la confirmation, notamment. Donc, selon cet enseignement, le fidèle peut désobéir habituellement à ce pape, entre guillemets, ce pape qui n'est plus la règle prochaine de la foi, mais un élément presque secondaire de l'Église. Pourtant, la sainte doctrine enseigne qu'un catholique ne peut faire abstraction de l'enseignement et du gouvernement du pape. Dans cette nouvelle doctrine, on retrouve la vieille erreur gallicane déjà condamnée par l'Église, qui engendre surtout dans les nouvelles générations un concept gravement déformé de l'Église et de la papauté. On arrive au paradoxe de refuser une hérésie, l'hérésie moderniste, au nom d'une autre hérésie, l'hérésie gallicane, au lieu d'embrasser intégralement la foi catholique jusqu'à ses extrêmes conséquences. Pour éviter cette situation gravissime, la fraternité devrait étudier sérieusement le problème de la papauté et constater que les « papes » entre guillemets du Concile, donc de Vatican II, n'ont pas reçu de Dieu l'autorité et qu'en conséquence, les fidèles sont soulagés de tout problème de conscience en refusant le Concile Vatican II et la Nouvelle Messe. En continuant, au contraire, d'affirmer que ces papes ont l'autorité, mais qu'il faut désobéir habituellement à leur enseignement, on perd le concept de la papauté, on habitue les fidèles, et surtout les jeunes, à être indifférents, sinon hostiles aux papes. Voilà, finalement, mes bien chers frères, quel est l'enjeu. Voilà pourquoi je vous rappelle ces vérités, et j'insiste là-dessus. Parce que notre problème, c'est qu'allons-nous transmettre à nos enfants, qu'allons-nous transmettre à ces jeunes générations la foi, la vraie foi, est déjà crue par un très petit nombre de personnes. Et donc, il est important pour nous de transmettre la véritable foi à ces générations futures. C'est notre devoir, tout simplement. On n'a pas, comme je le disais, à rétablir nous-mêmes une hiérarchie qui ne serait pas la hiérarchie de l'Église catholique. Non, mes bien chers frères, ce que nous avons à faire, c'est à garder la foi, à conserver le dépôt, mais à garder non pas cette foi, à transmettre non pas une foi qui soit frelatée par ce subjectivisme qui sent à plein nez le modernisme comme le fait réellement la Fraternité Saint-Pulis. Non, nous devons transmettre la foi catholique avec les conclusions nécessaires qui en découlent. Cette conclusion nécessaire, c'est Paul VI n'est pas pape, c'est Jean-Paul II n'est pas pape, etc. C'est une conclusion nécessaire et une conclusion qui est importante, qu'il est important, mes bien chers frères, de tenir. Car si nous ne la tenons pas, eh bien, nous devenons hérétiques. Nous sommes amenés à nier une vérité extrêmement importante de la foi catholique, c'est-à-dire l'infaillibilité pontificale, la primauté du pape sur l'Église universelle. Le bon Dieu, mes bien chers frères, nous tiendra responsables de cet amoindrissement de la foi, si nous ne combattons pas vigoureusement les destructeurs de la doctrine catholique, non seulement les destructeurs de la doctrine catholique que sont les modernistes par rapport à leur libéralisme, relativisme, etc., mais le bon Dieu nous tiendra aussi responsables si nous ne combattons pas vigoureusement les destructeurs de la foi catholique sur la papauté. Il faut garder une foi qui soit intègre et non pas une foi qui soit diminuée, qui soit frelatée. Nous croyons toutes les vérités que notre Seigneur Jésus-Christ nous a révélées. Si nous n'en croyons pas une seule, nous n'avons plus la foi catholique. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.